Bonjour à tous, bienvenue sur Alternant FM, c'est Bouquins en Bretagne. Alors, un auteur qui émerge, une librairie qui s'ouvre, une maison d'édition qui voit le jour, ça nous interpelle et ça nous fait plaisir. Raison de plus si nous avons l'occasion de rencontrer les auteurs, les créateurs dont le livre est le dénominateur commun. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une jeune autrice, Marie Bullard, et une jeune auteure, Vanessa Raven. Jeune mais riche en expérience dans le monde du livre et de la littérature. Marie, vous venez de créer 6 citrons acides, maison d'édition jeunesse. Quant à vous, Vanessa, alors je me permets de les vous voyez pour le début, mais je vous rassure, on va se tutoyer ensuite. quant à toi, Vanessa, tu es l'auteur de plusieurs nouvelles et romans. Nous t'avions reçu il y a un an pour Seul un homme, d'après la légende de Mulan, publié chez Pygmalion. Et nous avions alors peu parlé de chamanisme, même si cet ouvrage en faisait référence. Tu viens de faire paraître Mon cahier chaman aux éditions Solar. Bonjour à vous deux, merci d'être parmi nous. Donc, avant d'en venir à vos actualités et de revenir sur vos deux ouvrages, un petit mot. Alors, j'ai dit que vous étiez déjà toutes les deux, vous aviez l'habitude du livre, vous avez quand même mis un pied dedans depuis longtemps.
Bah, merci de nous recevoir avec 6 citrons acides. Donc, en effet, moi, ça fait une dizaine d'années que j'exerce dans le monde du livre, en particulier de la jeunesse. En fait, j'ai travaillé pendant 4 à 5 années chez Vox Éditeur, qui est aussi dans les
fantaises.
Voilà. Et puis après, j'ai exercé en freelance et j'exerçais donc ce qu'on appelle pour la direction artistique. Donc c'est, on va dire, la coordination, trouver le look, au fait, aux ouvrages. Et ça, je l'ai fait donc en freelance, notamment Toileron, avec qui je travaille encore, Cyros, Rajo, voilà, Belin Jeunesse. Voilà, différents éditeurs, particulièrement parisiens, parce que c'est ça. Et puis il y a 3 ans, j'ai rencontré Sophie Hamon, qui avait une idée de 6 citrons acides et on a mûri, et puis on va en reparlera.
On va en parler. Et toi, Vanessa, je l'ai dit aussi, déjà plusieurs ouvrages, des nouvelles, des romans.
C'est par des nouvelles, en fait, tout petit, dans des fanzines, mais avec quelqu'un qui m'a donné tout de suite de très bons conseils de publier. Un premier roman est sorti, puis un deuxième, puis les éditions Pygmalion, avec les publications. Mais normalement, un roman apparaît l'année prochaine encore chez eux. Mon éditrice chez My Life is Beautiful, le nom de la collection est tombé dessus. Elle m'a appelé, puis l'aventure en cahier chaman, mais super. Ouais.
D'autant plus que c'est une collection, plusieurs thématiques, sur d'autres sujets, peut-être le yoga ou autre.
Tout à fait.
Une collection importante. Hein.
Comme expliquait donc Gladys, mon éditrice, ils ont commencé vraiment par tout ce qui est bien-être, tout ce qui est gym, pilates, et ainsi de suite. Et petit à petit, comme ils voient qu'aujourd'hui, le bien-être du mental et de l'âme, quelque part, il s'ouvre, juste le féminin sacré et donc le chamanisme avec lui.
Très bien. Bon, on va développer ça dans quelques minutes avec Sophie Hamon. Mm-hmm. Ça va être le déclencheur ou il y a des choses qui mûrissaient déjà petit à petit?
C'était donc Sophie m'a contactée parce qu'elle avait ramené de ses valises un livre du Brésil qui s'appelle Pêcheur d'avril. Ça devait être en février, quelque chose comme ça, et ça devait sortir pour le 1er avril. Donc Sophie, finalement, dit que derrière Pêcheur d'avril, il y a toute une idée d'une maison d'édition autour de la langue et du langage qui s'appelle 6 citrons acides. Et voilà, et on a découvert finalement nombreuses idées, dont la collection C'est pas grammatique et ce deuxième titre qui va sortir là dans quelques jours.
Oui, donc de partir sur cette idée de peut-être elle te demandait ton aide et qu'en fait vous décidez.
Oui, bref, ça a pris un chemin.
C'est pas anodin, hein, même si tu l'as dit, tu as un pied dans le livre depuis très longtemps, donc tu connais les problématiques de l'édition et c'est pas évident même aujourd'hui. Encore de se lancer dans l'édition, c'était quand même de se dire allez, on y va.
Oui, alors oui, tu as tout à fait raison d'interroger là-dessus. C'est arrivé à un moment, moi, de ma carrière où c'est vrai que je pense que je commençais aussi peut-être à, j'ai envie de dire, tourner en rond. Enfin, je prenais toujours beaucoup de plaisir, évidemment, mais il y avait peut-être un petit peu de répétition. Donc, il y avait peut-être envie de passer à autre chose. Il y avait d'une part, ça, c'était concomitant. Et puis, avant toute chose, si moi, finalement, je porte cette maison, si citrons acides, c'est que, connaissant bien l'édition jeunesse, j'ai vraiment, pour moi, j'étais complètement convaincue que c'était un sujet, donc la langue et le langage pour les jeunes, qui n'était pas traité, au fait, comme nous on souhaitait le faire, en tout cas dans sa globalité, c'est-à-dire que vous allez trouver hein, des livres jeunesse, en effet, qui vont aborder la langue. Mmh. On n'a pas le monopole, évidemment. Mais une maison d'édition qui vraiment traite ça, avec toute son ampleur, avec tout son prisme, parce que c'est immense, au fait, ça fait partie des sciences humaines, donc c'est vraiment un terrain de jeu immense. Alors même que la langue et le langage, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Nous, on oui, dit, voilà, c'est un bien commun, c'est un bien commun à l'humanité. L'enfant est avec la langue dès qu'il est dans le ventre de sa mère. Donc ça me paraissait être tout à fait pertinent, en fait, de lancer une maison seule. De manière autonome et indépendante, parce qu'évidemment on a aussi réfléchi à ce catalogue-là ailleurs, mais il me semblait que ça méritait d'avoir ça avait suffisamment d'ampleur pour se permettre une autonomie. Ouais. En fait.
D'autant plus que Sophie, elle avait travaillé sur le langage.
Oui.
C'est aussi dans sa formation.
Oui, oui. Sophie Hamon, elle est cofondatrice. Hein. Comme elle le dit bien, en fait, Six Citrons Acides, c'est son idée et la maison d'édition, c'est moi. Et on la porte, enfin, on est toutes les deux cofondatrices. Et Sophie Hamon est docteur en linguistique, enfin en sciences du langage. Voilà. Par ailleurs, elle a exercé dans le milieu parascolaire. Et désormais, elle travaille pour Mobidis, qui est une plateforme de diffusion de livres audio à destination des publics dys, donc dyslexiques et autres dys. Voilà, donc elle a vraiment une vision et une acuité scientifique, je dirais, du langage. Et c'est pour ça qu'on dit qu'elle est... dans le duo, c'est la conseillère scientifique de Six Citrons Acides.
Ouais, donc tu as été séduite par cette manière-là qu'elle voulait, d'imprimer cette façon de faire pour cette publication.
Tout à fait. Elle avait vraiment une vision que je trouvais très intéressante de ce qu'on a aussi appelé le plaidoyer pour la langue vivante, parce que la langue est orale, écrite, lue, elle laisse ses traces dans les textes, dans les mails, dans les chansons, elle est argotique, elle est vieillie, il y a beaucoup de choses autour de la langue et elle m'a fait prendre conscience aussi que la langue est vivante. Une fois elle m'a dit mais il y a rien de plus vivant que la langue. Enfin si, il y a des choses vivantes, mais voilà, et elle est vraiment fascinée par ça et j'ai entendu, j'ai compris et j'ai pu avec mon expérience retransformer ça en livre. On essaye autant que possible de transformer cette langue qu'on utilise tous les jours et de montrer à quel point en fait il y a des richesses un peu sous-estimées sur cette chose qui nous est au fait hyper naturelle.
C'est le vecteur principal de la communication. Hein.
Oui.
Qu'est-ce que tu en penses, Vanessa?
Suis tout à fait d'accord.
Oui, un autre écrivain est quand même possible.
Mais même au-delà de ça, c'est-à-dire, je suis aussi co-actrice, et pour avoir lu des livres, il y a des livres où effectivement on voit que les auteurs sont uniquement dans la retranscription de leurs idées, et d'autres où on sent que l'auteur, en écrivant, a eu une musicalité en tête. Et moi, c'est ce que j'essaie de mettre dans mes romans, mais même en tant que lectrice, correctrice, donc lectrice de premier plan, on va dire, je vois vraiment la différence. Et c'est un plaisir, lorsqu'on lit le texte, de sentir chanter dans sa tête. J'adore ça. Donc, je comprends tout à fait la démarche et j'adore aussi.
C'est complètement vrai hein, dans ce premier ouvrage. Et d'ailleurs, dans le titre donné déjà aux éditions. Parce que alors c'est déjà le mot citron par lui-même, il dégage. Je crois que c'est un des mots de la langue française qui dégage le plus d'émotions internes. C'est le goût déjà. Hein. Je ne sais pas si pour vous si c'est pareil, mais si on dit six oranges, ça n'aurait pas été pareil que six citrons. Hein.
Tout à fait.
Donc ça a été alors ce choix de ce titre d'édition.
Oui, alors à nouveau, Sophie a vraiment le sens des titres puisque ça, à nouveau c'est elle, hein, six citrons d'acide. Sophie adore les sifflantes, donc c'est les sifflantes, ça fait ce et ze, et elle trouve ça toujours très drôle de mettre des sifflantes, quand on prononce des sifflantes, et à juste titre, et elle avait donc cette idée de six citrons acides qui n'est pas non plus, qui n'est pas que anodine, c'est aussi un clin d'œil à un éminent linguiste qui s'appelle Jacobson et qui a écrit un essai qui s'appelle Six leçons sur son essence. Et ça, alors c'est pas du tout un ouvrage jeunesse. L'ouvrage, semble-t-il, est tout à fait pertinent, mais avait trouvé ça d'une certaine manière non pas culotté, mais que l'auteur avait quand même réussi à mettre sur un essai quand même assez ardu sur la linguistique un titre, on va dire, il s'était fait plaisir, enfin où il avait mis de la littérature au fait dans un titre d'un essai, et ça avait beaucoup retenu. Et donc Six citrons acides est aussi un hommage à Roman Jakobson et à cet éminent linguiste. Et pour la petite histoire, donc Six citrons acides, c'est prononcer six citrons acides et vous aurez l'impression d'avoir six citrons en bouche. Ouais, et c'est la simple association des sifflantes se associée à la voyelle i qui nous donne à ressentir l'acidité du citron. Et on dit vous touchez là du bout de la langue, la magie du langage. Ouais. Et quand Sophie m'a parlé de ça, j'ai dit, mais c'est formidable, enfin, c'est une histoire en soi, il faut la raconter, cette histoire, il faut en faire un livre, il faut en faire un livre. Et c'est comme ça qu'est né, donc, notre premier titre dont tu parlais tout à l'heure, qui est sorti le 21 mai dernier, qui s'appelle Six citrons acides sifflent sur le sentier. Et c'est Françoise de Guibert qui l'a écrit et dessiné et qui a joué de ces sifflantes, mais aussi de toutes les autres consonnes de la langue française qui ont des noms que je trouvais merveilleux et qu'il fallait absolument donner à dire au public, parce que nous avons les fricatives qui se font feu et veu, nous avons les chuintantes qui font cheu et jeu, nous avons les occlusives qui explosent en bouche. Mais je les aime beaucoup, les occlusives, parce qu'elles font peu, te, de, que, gue, de. Et c'est celle qu'on n'a pas le droit de faire quand il y a le Covid, parce que ça postillonne. Et je crois que j'en ai oublié. Et les liquides qui font l'ERE, parce que l'ERE, c'est comme si on entend couler dans notre oreille. Voilà, donc c'est assez beau. Les liquides, pour ceux qu'on fait d'italien, on les retrouve aussi dans le mot, alors en français on dit tagliatelle, mais en italien, le G, on dit qu'il est mouillé. Donc on dit tagliatelle. Et voilà. Et c'est, voilà. Donc c'est très amusant. Et ce que a mis en lumière Sophie chez moi, alors que pourtant j'étais une professionnelle expérimentée du livre, c'est un peu les trois formes du langage qui peuvent être, de la langue, pardon, qui peuvent être lues, écrites, enfin quatre, orales. Et donc, quand elle est orale, on l'a dit, vraiment, on s'intéresse à toutes ces formes. On met beaucoup d'attention, et on met beaucoup, beaucoup d'attention à le fait qu'elle soit dite et entendue.
Ce livre, on le lit, on pourrait le lire 10 fois de rang, hein, je dirais, et pas le lire de la même façon.
Oui.
On le lit, on peut le lire très rapidement, parce qu'on est toujours pressé. Hein,
oui.
Et après, on se dit, bon, il faut aller, on va distinctement, on va essayer de bien dire les choses, et puis après, on a envie de s'amuser.
Oui.
Puis de voir à quel moment on va se casser les dents sur la phrase, et ça c'est.
Oui,
alors est-ce que pour c'était vous avez demandé à Françoise de Guibert voilà ce que vous vouliez, vous lui avez quelque part lui imposé
comment
un peu un cahier des
oui. Voilà, alors
un petit mot sur
oui,
peut-être
oui, bien sûr après on va lire un petit
sûr.
Texte après en avoir parlé donc Françoise la connaissait justement de Jacques Ritter et je savais que bon déjà c'est avec qui je m'en très bien, qui avait aussi été là à des moments dans ma carrière où j'avais des petits coups de mou, on va dire, parce que voilà, parce qu'elle avait aussi une belle expérience, qui est capable d'écrire sur beaucoup de choses. Au fait, je me suis rendu compte que finalement j'avais plein de livres d'elle dans ma bibliothèque, qui traduit aussi, qui a été aussi par ailleurs éditrice, donc qui comprend bien en fait les cahiers des charges. Et au moment où voilà, on réfléchissait à Six citrons acides, elle avait sorti chez Petit Glénat un livre qui s'appelait Les dieux du stand, où il y avait déjà des fruits et légumes. Et en fait, on a les six citrons qui ont des pieds et des jambes, et que je trouve ça très, très amusant.
Voilà, on pourrait
en fait
même raconter rapidement ouais. l'histoire. Hein. C'est un animal ou un connu hein, qui vole, et puis beaucoup de fruits et de certains fruits et légumes viennent se plaindre aux six citrons.
Oui, plus exactement. D'ailleurs, les citrons acides, au fait, se sifflent sur le sentier, se baladent en chemin et rencontrent un champignon chagrin, des petites patates tutu, des bananes boudeuses. Et tout le monde s'est fait chiper, chaparder, voler, filouter, quelque chose. Donc, en fait, à la rencontre, dans leur balade, ils rencontrent ces différents fruits et légumes. On rencontre, nous, les différentes consonnes. Et j'ai trouvé le céréal voleur. Mais tout ça se finit très bien autour de dessert et de virelangue.
Oui, voilà, c'est ça. C'est bien qu'il finit bien. Et
donc, tous ces fruits et légumes ont des pieds et des jambes. Voilà. Et elle les avait donc, Françoise, pour revenir à elle, les avait déjà mis en scène, on va dire, donc dans ce qui s'appelait les dieux du stand. Autour, elle avait fait des jeux de mots que je trouvais super. Il y avait l'auberge gymnastique, le water polo, water poireau, pardon, le marathon. Enfin bref, elle avait fait des jeux de mots comme ça que je trouvais vraiment, c'était très drôle. On lisait ça avec mon fils, on se marrait à fond. Tout pendant que je pensais à ces 6 citrons acides, et à chaque fois que je lui disais, je disais, mais il faut que je lui demande quand même, il y a un lien, ce serait bien chouette de faire ça. Et par ailleurs, je trouvais que son style était encore un petit peu vert, au fait, sur. Enfin, moi je dis vert, voilà, que ça aurait mérité de plus de maturation, en fait, sur ce premier ouvrage, qui était un premier ouvrage. Hein, donc, voilà. Et donc voilà, donc je suis allée voir Françoise en lui disant, bon, écoute, j'ai cette idée, là, de 6 citrons acides, ce serait langue et langage. On va faire un truc fun, pas du tout rébarbatif. Moi, j'ai juste cette idée-là en tête que faudrait les animer, au fait, ces citrons. Et puis, il y a ces histoires de consonnes, là. C'est marrant, comme, qu'est-ce que t'en penses, voilà. Et voilà, c'était à peu près ça, le cahier des charges, en fait. On a commencé par ça, puis après, on a étiré. Moi, j'avais aussi l'idée d'un format en long, parce que je les voyais, au fait, cette balade. Et très rapidement, on est arrivé sur une pagination assez courte sur le fait qu'il fallait que toutes les consonnes soient là.
Il fallait qu'ils tiennent, les 6 citrons.
Voilà. Donc, mais ça, oui, c'est elle qui. À vrai dire, je ne sais plus trop. C'est choses entre auteur et éditeur quand il y a des échanges. Ouais. Je ne sais plus trop comment sont venues exactement les choses. Mais. Voilà, je crois que c'est sûr, c'est elle qui a eu cette idée de les faire se rencontrer avec d'autres fruits et légumes.
Sur la maison d'édition elle-même, vous vous êtes fixé des règles, autant de limiter le nombre de publications sur une année, vous résultez comme un peu de l'économie sociale et solidaire, c'est ce que vous revendiquez, et donc ça, c'est important peut-être aussi de le dire.
Oui, alors c'était, je crois que...
Et puis vous êtes indépendant, on peut bien préciser.
Oui, donc on a un éditeur indépendant. En effet, on s'inscrit dans une démarche d'économie sociale et solidaire. Je dis bien on s'inscrit parce qu'on n'est pas juridiquement, en fait, on n'est pas encore vraiment en ESS, on n'a pas ce qu'on dit l'agrément ISUS, mais vraiment parce que ça prend du temps et on s'en rapproche, et vraiment on s'inscrit dedans. Et pour moi, c'était quelque chose aussi d'important, quitte à avoir une maison d'édition, que ce soit quand même. Et que, enfin voilà, que ça prend tellement de temps, c'est tellement engageant, c'est tellement de responsabilités, que ce soit quand même en cohérence avec ce que, comment je pense les choses et comment j'avais envie de les faire. Et ce qui était aussi important pour moi dans le fait de monter une maison d'édition, c'est que j'ai déjà eu la joie de recevoir plusieurs titres. Enfin, j'ai participé à des centaines d'ouvrages, au fait. Donc, je connais, au fait, cette joie d'avoir un livre. Par contre, tel que la filière est organisée aujourd'hui, je manquais du terrain, au fait. C'est-à-dire que, c'est assez technique, mais sans rentrer trop dans le détail. Disons qu'on produit les livres, il y a une phase de commercialisation en librairie, et après, ça ne peut nous échapper quand même pas mal. Surtout quand on est prestataire. Et moi, j'avais vraiment envie de revenir sur le terrain, d'avoir du lien avec le public, de faire les choses avec le public. Enfin, plus ou moins,
démarche,
peu importe.
Une démarche complètement différente.
Donc ça a vraiment irrigué, en fait, la pensée. Et quand, en fait, je réfléchissais à ce projet, l'économie sociale et solidaire, en fait, me donnait toutes les réponses à ce que je voulais faire. L'idée d'être écologique, mais c'est pas que ça. Donc nous, on fait en sorte d'imprimer. Donc on s'est donné une règle à moins de 1500 km, voire je vais essayer de réduire à moins de 1000 km. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas de Nantes, mais c'est de notre entrepôt de stockage qui est à Arles, puisque c'est là où sont diffusés nos livres. Donc les premiers livres sont imprimés en Italie, mais du coup on est à 700 km de Arles. Et donc ce critère-là, 10 500 km, me permet d'imprimer en France, Belgique, Espagne, Italie, mais d'être quand même proche de la France. Et j'ai bon espoir de pouvoir imprimer en France l'année prochaine. L'ESS, c'est d'abord l'écologie, mais pas que. C'est aussi, et surtout, au fait, travailler auprès des publics qu'on va dire empêchés. Et donc, d'avoir vraiment une démarche vers eux. Et nous, voilà, on souhaite y répondre à travers trois aspects. D'une part, les livres vont bientôt rentrer, on va dire, en diffusion bibliothèque grâce à un diffuseur qui s'appelle D2L et qui, au fait, diffusera nos livres auprès des bibliothèques des petites communes en particulier, de moins de 5000 habitants. Et au fait, ça, c'est très difficile quand on est éditeur seul, de pouvoir aller les voir. Donc déjà, ça permet de rentrer en ruralité. Enfin,
bien
voilà.
Sûr, ce qui est important. Oui.
Ce qui est vraiment important pour nous, d'être présent dans les petites bibliothèques. La deuxième chose, c'est que je me suis mise en très tôt en relation avec la Ligue de l'enseignement 44, et des Pays de la Loire, qui au fait travaille avec les publics de prisonniers, avec les EHPAD, les personnes âgées, les personnes handicapées, on va dire sur de la médiation culturelle. Ils travaillent particulièrement le livre. Ils sont très inventifs au fait. C'est en cours d'eux, mais on va avoir un projet, si Citrons Acides Siffle sur le sentier, devrait pouvoir se faire lire en prison. Donc ça, c'était aussi important pour nous. Et puis, la dernière chose qui est, en fait, que j'écris au dos de mes livres, c'est tous les efforts qu'on essaye de faire auprès des auteurs. Alors, ce sont pas des publics empêchés, mais pour certains, ils peuvent être très précarisés.
Tout à fait.
Et donc, moi, j'écris au dos de mes livres que je défends une rémunération juste pour mes auteurs. Alors, juste, c'est comment est-ce qu'on dit juste? La première chose, c'est que déjà, on dialogue beaucoup avec les auteurs. Et le pourcentage, donc on a un pourcentage de 5% pour chaque auteur. Alors pour le grand public, ça peut paraître pas beaucoup, mais au fait, c'est plus que... il y a quelques années, on était à 3% pour les auteurs. Donc Françoise, ça fait 10% en fait en tout. Et dans ce qu'on appelle des avances sur droit, qui sont quand même assez conséquentes pour une maison d'édition jeunesse naissante. Et surtout, voilà, c'est vraiment concerté avec les auteurs. Et je leur demande toujours leur avis. Quand j'écris, défends les auteurs par une rémunération juste, je lui dis, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que je peux l'écrire? D'une certaine manière, on peut dire que c'est un modèle militant. Et au fait, l'idée, c'est vrai que je n'ai pas parlé non plus d'ailleurs du nombre de titres, mais l'idée, c'est de faire peu de titres.
Oui,
on
n'en
fait que 5, on a annoncé 5 à 7 titres par an, ce qui est très peu. Il y a des études, le disait chez Hachette, on peut avoir 30 livres par mois en fait. Donc 5 livres par an, c'est pas beaucoup pour se faire distinguer en librairie, mais de les soutenir autant qu'on peut, de mettre toute notre expérience, toute notre inventivité pour soutenir ces livres. Et espérer obtenir des volumes de vente suffisants pour trouver l'équilibre.
Ouais.
Mais c'est le vrai pari au fait de ces éditions. C'est l'art et la manière économie sociale et solidaire qui doit faire ses preuves de certaine manière.
C'est ça qui nous plaît et qu'on espère. Entretenir ça par la suite et continuer à se revoir pour faire un bilan de temps en temps. Des auteurs illustrateurs locaux, mais pas forcément, mais il y en a beaucoup sur la région nantaise. On imagine même notamment d'illustrateurs qu'il peut y avoir, et comme on en reçoit de temps en temps quelques-uns ici, malheureusement souvent on les ignore un peu, on les connaît pas assez, et je pense que c'est une manière là aussi de les faire découvrir.
Oui, alors Françoise de Guibert, elle n'est plus de la région, elle a habité très longtemps à Auray. Les prochains, donc le 17 juin prochain sort Le vélo à ma sœur, à ne pas confondre avec Le vélo de ma sœur, dans la collection C'est pas grammatique.
Ouais.
Et ce sera avec un local, comme on peut le dire. C'est Fabien Vellman, donc le scénariste notamment de Seul, la série Seul qui a un gros succès auprès des kids, mais aussi de Spirou et du dernier Atlas, qui est vraiment une série. Moi, j'adore, je suis pas la seule, il y a un très gros succès critique sur le dernier Atlas, et c'est chez Cici Transacide, donc c'est génial, accompagné de Charles Dutertre, qui est un illustrateur super, qui a 20 ans de carrière, qui est hyper drôle, c'est hyper coloré, c'est très très fourmillant, je sais pas, il y a 1000 idées dans ses dessins, ça fuse, quoi, au fait, dans ses dessins. Et donc ça, ce sont les deux premiers auteurs de la région, donc autour de Nantes, ils habitent tous les deux à Saint-Sébastien. Alors c'est drôle parce qu'ils ont fait le vélo à ma sœur et Fabien venait en vélo, enfin on était tous à 10 minutes de vélo de chez Charles, et ça c'était agréable au fait, c'était aussi l'idée, c'est-à-dire que tu as complètement raison, il y a plein de talents en fait par ici, des illustrateurs. Moi je travaille aussi avec Julia Wouters pour Talent Où, c'est une fille qui est hyper douée, je crois que c'est elle qui a signé la prochaine affiche de Atlantide, donc il y a vraiment un vivier super. Donc je m'interdis pas de travailler évidemment avec d'autres auteurs en France, mais tant qu'à faire, si ça peut matcher avec ici, c'est tellement agréable et confortable, surtout avec ce qu'on a connu du Covid, de pouvoir travailler ensemble, voilà, de se faire un coup de vélo et de se dire tiens, je t'amène les épreuves, on regarde le texte, et de pouvoir le travailler ensemble plutôt que de le faire par mail, moi ce que je fais depuis 10 ans, c'est vraiment super chouette, quoi. Ouais. Moi j'adore, quoi.
Bon. On pourrait passer du temps. Hein. On a une deuxième invitée.
Mais oui, c'est ça.
Mais on aura l'occasion hein, de se revoir certainement. On a insisté sur le fait aussi que tu avais un pied dans le livre depuis longtemps et ça se traduit effectivement dans la manière aussi de monter ces maisons d'édition. En fin d'émission, pour toutes les deux, on fera un petit tour d'horizon sur ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines à venir, hein, sur votre actualité. Et on va se trouver une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes.
On avance comme on peut pour être les meilleurs au monde. Mettre les plus belles paillettes autour de nos peines en nombre. On tente juste d'être bien malgré ce qui nous inonde. À toute vitesse, on est à presque rien de se confondre. On recherche les fêtes sans être touché par les bombes. De fenêtres en détresse, on pense les mêmes plis profondes. Certains devancent même les chutes avant que s'effondrent. Ce qui nous reste, c'est d'être dans le même monde. En ces temps qui grondent. Dis-moi si tu te tiens. On pense des rêves qui fondent. Sens-tu qu'on est plein à être dans le doute? Regarde ce matin, tout va bien, il y a de la neige en août. Que le mal, nous sommes bien plus informés. Est-ce les hommes qui brillent seuls ou qui savent mieux le romancer? Est-ce moi qui ai plus d'espoir ou toi qui ne sais plus moi sûr? Tu sais quoi le futur si on n'a nulle part où danser? Si tu danses sur les morts, sur les murs qu'on a fondés. Dis-moi c'est quoi l'azur si on ne peut plus le contempler? Dans le ciel beaucoup trop de corps, je ne fais que t'étouffer. Dis-moi si tu vas bien, en ces temps qui grondent. Dis-moi si tu te tiens. Aux branches des rêves qui fondent. Sens-tu qu'on est plein à être doute? Regarde ce matin, tout va bien, il y a de la neige en août. Les temps qui grondent. Dis-moi si tu te tiens. Aux branches des rêves qui fondent. Sens-tu qu'on est plein à être dans le gouffre? Regarde ce matin, il y a de la neige en nous.
Parler de 6 citrons acides, cette nouvelle maison d'édition avec Marie Rébulard. On y reparlera aussi à la fin pour voir ton actualité, Marie, hein, parce qu'elle est chargée, puisqu'on est en plein dans les débuts hein, de la maison. Vous venez d'écouter Eddie Depreto, hein, vous l'aurez reconnu, son dernier album À tous les bâtards. Le titre, c'est Neige en août. Vanessa. Alors, on va revenir sur ce cahier chaman. Alors, le chamanisme, on sait que ça pose beaucoup de questions. On en parle peut-être beaucoup plus aujourd'hui, depuis quelques années, parce qu'on parle beaucoup aussi du développement de soi. Donc, le chamanisme entre peut-être, mais tu nous l'expliqueras mieux que moi. Là, je suis vraiment un peu candide, même si le chamanisme m'interpelle. Et puis, pour avoir lu aussi un certain nombre, très peu de livres, hein, on reviendra peut-être sur certains auteurs qui ont évoqué cette question-là. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'est le chamanisme ou alors peut-être demander comment tu en es venu à l'aborder, à le pratiquer? C'est peut-être plus simple d'abord de commencer par cette question.
Oui, vraiment comme tu veux. Est-ce que c'est le chamanisme? Donc maintenant c'est bon, je sais comment y répondre. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est compliqué vu parce que, enfin, à quel point ça remonte à la fois en histoire et dans les développements géographiques qu'il y a et culturels. Alors comment je suis venue à le pratiquer de façon tout à fait naturelle? Par contre, je me suis rendu compte que je pratiquais le chamanisme en lisant des auteurs qui ont écrit dessus, notamment Corinne Sombrin, qui a été le premier auteur dont j'ai lu les témoignages.
Pas mal, hein, qui fait pas mal de conférences aussi. Hein,
tout à fait. Ouais. Et qui a une démarche très intéressante et complètement atypique, et montrer que ça a une réalité mesurable. Ce qui est très enrichissant et ce qui nous soulage beaucoup en tant que praticiens ou personnes pratiquant le chamanisme, parce que ça nous fait un peu moins passer pour des fous, il faut le dire. Donc c'est quand même bien qu'il y ait ça. Et là, récemment, en voyant un reportage sur Arte, je me suis rendu compte encore d'autres choses par rapport à des témoignages que donnent des chamans. Sauf que l'avantage dans ces cultures où ils ont gardé la pratique chamanique et tout le savoir qui va avec, c'est qu'on va reconnaître quand quelqu'un fait du chamanisme. Alors que moi, je me suis retrouvée à avoir tout ça et à juste interpréter ça avec notre grille de savoir occidental et à me dire, voilà, c'est mon ami imaginaire. Oui, je crée des... Je joue à la dinette avec les arbres comme si c'était... Enfin, voilà, quoi. Mais c'est encore imaginaire. Et là, ce que je me suis rendu compte très récemment, c'est qu'à un moment donné de mon adolescence, j'ai fait des crises de tétanie. On ne sait pas d'où c'est venu, c'est disparu comme ça. Et... le témoignage de cette chamane que j'ai vue sur Arte, juste, en fait, elle a décrit qu'à un moment donné, dans leur apprentissage, on savait que la personne avait des prédispositions chamaniques. Voilà,
c'est ce mot que je voulais t'entendre dire, prédisposition. Est-ce qu'il faut justement être prédisposé dans un état d'esprit en arrivant par diverses manières, hein, mais à être plus réceptif que d'autres?
Non. Alors, ça dépend ce qu'on veut en faire, en fait.
Dans ce livre, pour l'ayant lu, on s'aperçoit qu'en fait, on est tous, on pratique tous un peu le chamanisme. Tu as évoqué le rapport à la nature. Ça peut être le rapport avec des animaux. Ça peut être différentes choses pour qu'on se trouve bien dans une maison, dans un endroit plus qu'un autre. Oui. Alors, je parlais de prédisposition ou alors non, ou c'est des choses qu'on découvre par soi-même, parce que c'est aussi un retour sur soi-même, hein, des réflexions sur soi-même, de voir ce qu'on perçoit, parce qu'on sait aujourd'hui que le cerveau...
Tous et toutes la capacité d'entrer en état modifié de conscience, en état chamanique, c'est juste que on ne l'a pas appris. Voilà, il y a des sociétés, il y a des cultures où on est amené à tous savoir le faire parce que ça apporte une certaine sanité dans les rapports humains et dans les rapports avec l'environnement. Donc, eux, ils vont vraiment l'inculquer dès l'adolescence, pour que chacun ait au moins cette conscience que ce qu'on fait, notre façon de penser et les ondes, quelque part, qu'on envoie, impactent l'environnement, impactent les autres. Chez nous, voilà, on a mis ça complètement sous tapis.
Et ça, c'est encore très réel dans certaines cultures.
Ah mais oui, complètement, c'est tout à fait. Alors, je ne me connais pas dans toutes les cultures chamaniques, parce qu'il y en a énormément dans le monde. On parle beaucoup, il y a beaucoup de reportages qui se font sur la culture amazonienne, donc c'est vrai, je m'y connais plus sur ces cultures-là, par la force des choses. Mmh. Et là-bas, oui, complètement, c'est inculqué. Dès qu'on est enfant, c'est tout le monde qui y participe. Dans les livres.
Concrètement, ça prend quelle forme, du coup, quand on est enfant, voilà,
Le respect, déjà. Considérer que les arbres et les animaux sont des êtres qui ont le même droit de vivre que nous, en fait, et les respecter. Et certains arbres, certains. Là, je suis plus sur le Shinto, mais il y a des rochers, des montagnes, etc. Et pour l'Amazonie, comme le Shinto d'ailleurs, les fleuves, les rivières. Ont un esprit, donc ont une âme, en fait, quelque part, et on va les respecter, on va leur demander la permission, on va s'adresser à eux comme les vrais propriétaires de l'endroit où on vit. Nous, on ne sommes pas propriétaires, nous sommes locataires de chez eux, finalement. Et en fait, on va apprendre déjà tout petit aux enfants à avoir cette conscience-là de respect et, quelque part, de se relier aussi. Quand on passe à côté d'un arbre qui a un certain esprit important, un grand-père de la forêt, par exemple, on va saluer cet arbre et limite, on va lui demander sa bénédiction pour continuer le chemin sans souci. Et enfin, même voilà, les animaux qu'on va abattre pour se nourrir, on va les remercier. On a conscience qu'on a tué un être avec des émotions, par exemple.
Les Indiens d'Amérique, ils étaient très... justement, on a souvent évoqué ce qu'ils vivaient, eux. Oui. Cet exemple-là, parce que ça, c'est souvent de par là qu'on a commencé à évoquer, quand on parlait le respect qu'ils pouvaient avoir de la nature et des animaux, c'est souvent de par eux qu'on a eu qu'on a évoqué les premiers chamans avant de peut-être d'aller effectivement plus en Amazonie ou ailleurs dans le monde, parce que comme tu l'as dit, c'est un peu dans toutes les cultures.
Oui, d'ailleurs, le terme chaman est un terme.
Est-ce que c'est dans nos sociétés occidentales, qu'est-ce qui a empêché tout ça? C'est les religions? La religion.
Moi, je pense que, en effet, c'est surtout que, enfin, c'est un peu délicat de dire ça parce que une religion peut aussi beaucoup apporter sur un plan de développement de soi et sur le plan spirituel et moral à une personne. Mais on va dire qu'à un moment donné, effectivement, là où les religions majoritaires se sont mêlées de politique et d'économie. Et ont voulu prendre une sorte de monopole en écrasant des choses qui se faisaient. C'est un peu le souci. Enfin, on va dire que c'est le souci lorsqu'on cherche le pouvoir. Voilà.
Justement, est-ce que le fait, là, on vient de connaître un an et demi de pandémie, et on ne sait pas trop encore où on va. Est-ce que justement, et puis on voit beaucoup de gens, les gens reviennent, quittent les villes ou veulent revenir à la nature ou veulent avoir, je pense même aux démarches entreprises par Marie, par exemple, de quitter des. Envie aussi de créer autre chose, d'une autre manière. Est-ce que ça y participe, tout ça? Parce qu'on a l'impression que la société bouge aussi un petit peu. Puis on n'a pas évoqué, mais il y a la préservation de la nature, quand même, dont on parle aujourd'hui beaucoup, et qui nous font revenir un peu, ou du moins réfléchir sur ces mouvements de pensée, sur le chamanisme notamment.
Oui, il y a tout ça. Et même dans les différents peuples natifs, il y a des histoires sur la période dont on vit, voire des histoires qui datent d'il y a plusieurs siècles, qui disent qu'à un moment donné, l'humanité, dans son ensemble, va vouloir se positionner par rapport à la nature et retrouver une harmonie, comme tu disais tout à l'heure, Marie. Harmonie, c'est vraiment un mot très important là-dedans. Et on vit cette période... Ça, c'est une idée personnelle, par contre. Mais le Covid, pour moi, c'est un signal d'alarme qui dit « Ouais, maintenant, c'est le moment, quoi, un petit peu, de se pencher sur tout ça, si vous voulez vraiment que ça arrive.
Sur le fait que... Je pense qu'en effet, il y a une bascule qui s'opère quand même, là, dans la société, sur, en effet, des prises de conscience davantage écologiques, surtout sur un... J'ai envie de dire un refus d'un fatalisme d'une société telle qu'elle est organisée aujourd'hui et qu'il faudrait à tout prix suivre et qu'il n'y aurait pas d'autres solutions. Et notamment, on le voit, enfin, moi j'ai l'impression de le percevoir chez les plus jeunes, au fait, chez les vingtenaires, qui ont l'air d'être quand même, enfin, en tout cas, il y a une partie d'entre eux qui ont l'air d'être beaucoup plus militants sur ces aspects-là, beaucoup plus vigilants sur leur consommation. Alors, avec aussi parfois des paradoxes, hein, parce que on est à la fois smartphone et à la fois. Dans l'écologie, mais bon, faut aussi accepter, je pense que on a aussi cette culture occidentale, capitaliste, etc., et que en fait on peut pas basculer du jour au lendemain, et que on fait tous des petits efforts et on fait tous on fait tous des tests aussi pour faire un peu autrement. En tout cas, ceux qui rentrent dans cette démarche là et en effet redécouvrir de différentes manières notre rapport à la nature, aux gens, quoi.
Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le smartphone, en fait, c'est assez caractéristique, mais c'est aussi une histoire de lien. C'est-à-dire, pourquoi on revient à la nature, pourquoi on revient à un monde plus équilibré, harmonieux? Parce qu'on a envie de se relier au monde et de se relier de façon sereine aux autres. Et le smartphone, c'est assez typique, à la fois, c'est un peu anti-écolo, mais en même temps, c'est un tel vecteur de lien, de recherche d'informations, prise de conscience, de lien avec ses amis, avec des groupes sociaux et de pensée. C'est complètement paradoxal, en fait. C'est très intéressant à réfléchir, je trouve.
On a vu justement, maintenant on commence à s'intéresser à sociétés qui ont, où le chamanisme est assez important, hein, dans le monde, de ces sociétés qui sont très proches de la nature, et on voit la nature qui se détruit, hein, ou que l'on détruit,
oui.
Et que du coup on porte peut-être un regard différent sur ces sociétés-là qui, depuis des siècles aussi, essayent d'aller à peu près dans le même sens, hein, à parler de leurs problématiques et notamment de leur rapport avec la nature qu'on a certainement, nous, en partie perdu. Donc je veux dire, c'était de est-ce qu'on porte un regard différent aujourd'hui sur ces sociétés, je pense
oui.
Notamment en Amazonie, puisqu'on a évoqué là, mais il y a dans d'autres régions du monde où
oui,
le chamanisme
oui.
existe, est assez fort, mais on n'en parle pas. Et aujourd'hui, peut-être qu'on réfléchit un peu plus à ça et on porte un autre regard sur ces sociétés qui, depuis, poussent des cris d'alarme depuis des décennies, hein, je veux dire. Hein.
Oui, oui,
notamment
ça, c'est
par
certain,
rapport
oui.
à la nature.
Oui. Il faut voir déjà comment on traitait ces sociétés d'un point de vue scientifique il y a on est quelle année ? Il y a plutôt 60 ans. Mais voilà, rien que les chamans ont pensé que c'était des sortes de gourous ou des sortes d'artistes de rue qui faisaient croire aux gens des choses pour leur voler leur argent. Aujourd'hui, c'est regardé avec beaucoup plus de respect.
Oui, parce qu'avant, on pouvait dire chamanisme, charlatanisme. Moi, j'employais ce mot parce que ça faisait d'abord très peur. On disait, oui, c'est des magiciens, c'est des sorciers. Et puis il y avait des arrière-pensées derrière.
Hein. Oui, ceux qui les étudiaient pensaient vraiment qu'ils faisaient juste du spectacle. Et c'est à partir du moment où il y a des ethnologues qui se sont mis à pratiquer, notamment Michael Arner, qui a fondé la Foundation for Shamanic Studies par la suite, et qui est très connu à travers le monde. Il y a voilà, des ethnologues qui ont franchi le pas et qui ont dit « Non, en fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe. » Et je pense qu'effectivement, il y a eu une bascule au moment donné où on a eu l'humilité de vouloir tester et de ne pas se dire « On a notre grille, on a la vérité, on pose sur leur pratique parce qu'eux n'ont pas la vérité. » Et ça marche du coup pour tout, y compris leur rapport avec la nature, leur pratique pour la... Justement pour à la fois l'exploiter, entre guillemets, parce qu'ils prennent quand même ce dont ils ont besoin de la nature. Mais en même temps, ils le font de façon pérenne. Ça, on a beaucoup à apprendre d'eux et on s'en rend compte aujourd'hui.
Oui. À travers ce guide, donc mon cahier chaman, on peut le pratiquer soi-même. Vaut mieux être accompagné. Faut partir doucement, notamment peut-être par des reportages, par des lectures. Parce qu'il faut, c'est un livre auquel on s'imprègne. Hein. Je pense que ça, tout se fait aussi avec mesure. Puis à certains moments, de la vie aussi, peut-être, on vit une vie assez trépidante. Donc, il y a tout un moment à prendre pour avoir une réflexion sur soi. Alors, est-ce qu'on le fait seul ? Est-ce qu'il est préférable de se faire accompagner, je veux dire ?
Là, ça va vraiment dépendre des personnes. Mais un peu comme tout, c'est-à-dire... Alors, on peut le faire seul, clairement. Hein, c'est le guide, et d'ailleurs, mon cahier chaman est prévu pour ça. J'insiste beaucoup sur la sécurité, sur être dans le bon état d'esprit, parce que ça joue beaucoup l'état d'esprit dans lequel on est, quand on est sur des pratiques spirituelles et énergétiques. Il y a aussi une partie pour purifier, si vraiment, il y a un truc qui s'est mal passé. Et on débute de toute façon, mais comme dans tous les livres de chamanisme, on débute par le voyage pour aller trouver son allié principal, son esprit allié principal, qui par la suite, on est censé l'appeler à chaque fois qu'on fait un voyage, et lui va nous guider, et notamment quand il y a un danger, il va nous dire va dans une autre partie du voyage, quoi, ou fais ci, fais ça. Quand on a un doute, l'idée, c'est de pouvoir avoir recours à cet esprit allié, qui va être notre réel enseignant. Le livre « Mon cahier chaman », c'est juste un guide pour avoir accès à tout ça et avoir des idées. Mais le réel enseignant, c'est ce qu'on dit dans toutes les pratiques chamaniques, les réels enseignants, ce sont les esprits, en fait.
Oui, d'accord. Marie ?
Non, moi, je m'interroge sur, au fait, au quotidien, quelle forme ça prend, en fait, dans ton quotidien, voilà, cette pratique chamanique, pour illustré, on va dire.
Alors, vraiment, vraiment tous les jours.
Non, pas tous les jours, mais avec quelques exemples. Quoi.
D'accord. Des voyages de temps en temps, quand j'ai une question, quand je sens qu'il y a quelque chose qui bloque ou autre. Donc, je fais des voyages chamaniques. Donc, je me mets en état modifié de conscience, ce qui me permet de faire une sorte de visualisation. Et dans la visualisation, j'ai rencontré des esprits qui vont m'apporter des réponses, que ce soit des réponses parlées ou des réponses symboliques. Ça peut être par leurs actes, ça peut être aussi les paysages que je vais traverser. les paysages ont différentes significations. Ça peut être les animaux que je vais rencontrer. Les animaux aussi ont des significations. Par exemple, très connu, le cerf, c'est un symbole de renouveau parce qu'il perd ses bois, tout ça. Et ainsi de suite. Et après, il y a encore... Il y a le monde d'en bas et le monde d'en haut à explorer.
Enfin, oui, c'est tout, tout est voilà. Dans le livre. Hein,
il y a vraiment beaucoup de choses.
Je n'avais pas eu l'occasion.
C'est à la fois passionnant, intriguant. On se pose beaucoup de questions. Moi, je pense à une chose, parce que je me rappelle d'avoir lu le livre de Corinne Sombrin quand elle était partie rencontrer des chamans en Amazonie, oui. Où elle avait ingurgité aussi des produits qu'on pourrait dire peut-être hallucinogènes ou autres. Parce que quand on lit, mais c'est fou, quoi. C'est extraordinaire. Et on sent, elle l'a vécu réellement, ou elle l'a perçu. Donc, on n'est pas forcément obligé de prendre des substances.
Non. Non, non, non. Et je dis pas ça parce que la loi française m'y interdit. Non,
non. Mais non, bon, voilà, c'est ça. On aura compris que ça, voilà. Bon. On n'en dit pas plus. Hein.
Mais tout à fait. En fait, il y a deux façons d'entrer en état chamanique. Il y a le son, c'est-à-dire, en fait, il va y avoir un certain rythme, souvent au tambour, mais en plus.
Oui, c'est ça. Il y a l'utilisation, hein, tout ça, c'est voilà. Bien indiqué, hein, de tout tout ce qu'on peut avoir au niveau des plantes, au niveau musical, sur les bols, les tambours.
Les bols, je trouve que ça marche un peu moins bien, mais ça, c'est personnel. Pour commencer, je conseille vraiment le tambour parce qu'en fait, c'est un son fort, vibrant, et en fait, ça force notre cerveau. Les ondes de notre cerveau à avoir un certain rythme, enfin une certaine fréquence plutôt, puisque ce sont des ondes. Et en fait, c'est ça qui va nous faire rentrer en état chamanique. Ça demande plus d'efforts, effectivement, que les produits psychotropes, ça c'est sûr et certain. Mais les deux sont valables et les deux se font dans des sociétés différentes, mais depuis des millénaires.
Absolument. Ce livre, il est très bien illustré. Je pense que pour une maison d'une éditrice, là aussi, il est remarquablement illustré. Alors, la couverture, on le doit à Isabelle Maroger et l'intérieur à Audrey Bussy. Oui. Et ça montre aussi le travail d'illustratrice, hein, qui donne déjà très envie de le lire. Alors, on ne l'a pas dit, mais il s'adresse plutôt aux femmes, mais rien n'interdit à un homme de le lire, bien au contraire. De toute façon, c'est un ouvrage qui nous apprend plein de choses. Mais c'est parce que la collection est plutôt destinée
aux femmes. Aux femmes, voilà, hein, c'est une collection dédiée à ça, même s'ils ont sorti récemment un cahier pour les hommes. Mais on va dire que ouais, toute la collection, sinon, est pour les femmes. Oui, même si le livre est écrit au féminin et que la plupart des... Enfin, toutes les illustrations sont des femmes qui sont représentées. Il y a un chapitre sur les cinq qui est vraiment sur le féminin. Et comme je dis, même à l'intérieur de ce chapitre, à part une ou deux parties qui sont vraiment sur la physiologie féminine, on va dire, le reste, en fait, ça peut être fait par des hommes ou ça peut être adapté, notamment la quête de pouvoir. Je dis d'aller voir des déesses souveraines. Un homme peut très bien adapter en faisant deux, trois recherches et aller voir des dieux souverains. Et enfin voilà, il peut faire la même démarche en adaptant.
Absolument. Ben aujourd'hui, c'est pas interdit, hein, au contraire, d'aller la psychologie féminine. Les hommes ont peut-être besoin aussi de s'y pencher, peut-être un peu plus qu'à une époque. Donc rien n'est réservé. Hein. Il n'y a pas des livres pour les hommes et pour les femmes. Mm-hmm. On mélange tout ça et puis on lit ensemble.
Question de Marie parce que j'ai pas tout.
Oui. On a 5 minutes. Hein.
Ok, d'accord, je me dépêche. Sinon, au quotidien aussi, je remercie beaucoup. Je veux dire, les voyages, c'est vraiment quand j'ai une question, mais au quotidien, je remercie. Je remercie notamment quand je mange, parce que, pareil, c'est des... Enfin, je suis végétarienne, mais c'est des légumes qui ont poussé, qui vont me nourrir, qui sont morts pour me nourrir. Il y a le soleil qui les a nourris, la terre, la pluie. Je remercie l'esprit du lieu, de mon chez-moi, parce qu'il m'abrite, il fait que je m'y sens bien et protégée. C'est aussi tout un esprit de gratitude. Et des fois, ça m'arrive, en faisant une promenade, de voir un arbre ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais je vais être portée à le saluer. Voilà.
Merci.
Ton actualité, Vanessa?
Oui, mon actualité. Donc, j'ai quelques dédicaces sur Nantes. Ouais. Le samedi 19 juin, de 15 à 18 heures, à la librairie Au Chaudron. Donc, une dédicace complétée de 3 mini-ateliers. Et le samedi 3 juillet, de 14 heures à 18 heures, à la librairie J'aime des Archanges. En dehors de ces dédicaces, on peut trouver mes livres, sinon sur Nantes, à la librairie Durance et l'Autre Rive.
D'accord, très bien. Puis on mettra le... Parce que on l'a peut-être pas dit, mais tu enseignes aussi ou tu...
Je pratique pour les gens,
on l'indiquera dans le podcast de l'émission. On mettra vos liens respectifs, hein, d'ailleurs, pour que les gens aient tous les...
Sinon, il y a un salon le 26 et 27 juin qui s'appelle Un temps pour soi-même, qui se passe à Vertou. C'est un salon bien-être et c'est mon premier salon en tant qu'exposante avec plein d'autres praticiens, y compris des trucs comme Bye Bye Allergie. Donc, c'est pas forcément du chamanisme ou des trucs comme ça.
Alors, si, n'hésitez pas à le lire, hein, même si vous avez des craintes ou autre, ou que ça, peut-être que ça vous fera pas changer d'avis, mais au moins, lisez-le, parce que on apprend plein de choses et on s'aperçoit, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on est tous quand même un peu chaman.
Je me permets juste de redire pour les auditeurs, c'est Mon Cahier Chaman, c'est chez Solar Edition.
Voilà,
je sais pas si on a dit le titre.
C'est très bien. Merci, Marie. On voit, hein,
qu'elle est professionnelle.
La professionnelle. Marie, deux minutes là pour ton actualité là.
Oui, tout à fait. On a une belle actualité la semaine prochaine parce que si je pense que la sortie d'un livre est une fête, alors autant dire que la naissance d'une maison d'édition, ça devait en être une aussi. Donc mercredi 16 juin, c'est l'inauguration de la maison d'édition 6 Citrons Acides. Ça se sera à la Générale. C'est sur l'ancien site de la caserne Mélinet, donc surtout pas à confondre avec la place Mélinet, c'est à l'opposé, c'est quartier Est. Place du 50e régiment d'artillerie, d'infanterie, je ne sais, bon, vérifiez sur le site, je comprends toujours. Donc c'est à la Générale, sous le café Belle de Jour, on va dire, donc sur un nouveau quartier là qui sort de terre. Ça, c'est le 16 juin, après la sieste, de 16h à 19h, il y aura des dédicaces, des lectures à voix haute. Le 18 juin, Fabien Velman et Françoise de Guibert seront à la librairie Durance de 16h30 à 18h30. Chez Aladdin, c'est le lendemain à la librairie Aladdin, c'est une spécialisée BD qui est à côté de la Tour de Bretagne. C'est le matin de 10h à 12-13h. Et enfin, il y a le 26 juin, à l'occasion de circuit court, ce sera à Bas-Cindre, à la librairie des Quais, et ce sera une animation tout à fait originale puisqu'on va réenregistrer le livre 6 citrons acides sur le sentier. Ça devrait plaire à des gens de radio, puisqu'on va faire un micro-trottoir. Et donc, on vous invite à lire le texte et nous l'enregistrons. Type 6 citrons acides siffle sur le sentier, susurre des sonnettes. Sympa, ces sucettes. Super. On vous l'enregistre. On vous le monte et le soir, ce sera sur la boîte mail.
Eh ben, tu nous as mis l'acide à la bouche. Hein. Très bien. Merci, Vanessa. Merci.
Merci pour l'accueil.
On se dit à bientôt, hein, parce qu'on ne lâche pas en si bon chemin les gens qui débutent. Voilà. Merci à Julien. À bientôt. Hein. Merci,
merci Julien.
Et puis, bonne continuation.
Merci beaucoup. Merci.